On est parti ?
Allez.
Alors, rendez-vous en bas des pistes.
Qui est le numéro 1 ?
Radio Z.
Attention, vous entrez dans la
Radio Z
dimension.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur
Radio Z.
Alors, après avoir laissé le micro au stagiaire la semaine dernière, j'ai décidé de reprendre la main. Donc au programme aujourd'hui, nous allons parler de la journée sans téléphone, des Jeux Olympiques, d'automobile avec Agnès et de la maintenant célèbre chronique mystère de Marie-Thérèse. Donc pour commencer cette émission, j'ai sélectionné pour vous deux actualités récentes que j'ai voulu relativement positives. Alors on va commencer avec un rapide passage sur les Jeux Olympiques. Donc si vous ne le saviez pas encore, les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang commence le 9 février. Est-ce que vous savez au moins où se trouve Pyeongchang ?
En Corée du Sud.
À l'occasion, mais Zubida a préparé la chronique, donc forcément elle sait où c'est. À l'occasion de ces Jeux Olympiques, le monde va assister à un geste symbolique de réconciliation que l'on n'avait pas vu depuis plus d'une décennie. En effet, la Corée du Nord et la Corée du Sud défileront ensemble lors de la cérémonie d'ouverture. Une équipe commune aux deux Corées sera également alignée dans le tournoi dames de hockey sur glace. Alors après une année de fortes tensions dans la péninsule, avec de multiples tirs de missiles et d'essais nucléaires menés par la Corée du Nord, l'envoi de Nord-Coréens à des Jeux Olympiques organisés par le voisin ennemi marque un moment rare de publicité diplomatique positive pour l'olympisme et un espoir de détente.
C'est la mentalité des sportifs qui prend le dessus.
Exactement. Comme quoi, le sport peut être un vecteur de paix assez incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous trouvez ça...
Oui, bien.
C'est bon. Je trouve ça plein d'espérance, plein de...
Parce que vous savez qu'en fait, la Corée du Nord et la Corée du Sud sont toujours officiellement en guerre. Il n'y a pas de conflit armé direct, mais ils sont toujours officiellement en guerre.
Bah écoute...
Pas plus de réaction que ça.
Moi, j'applaudis.
Vous applaudissez quoi, la chronique ou les Corées
les deux, du Nord et du Sud. Les deux, les Coréens.
Est-ce que vous pensez réellement que quelque chose puisse arriver, c'est-à-dire un approche de ces deux pays à cause des Jeux Olympiques, je ne pense pas.
Non, moi je pense que c'est juste...
C'est juste les Jeux là, et les gens vont voir, tout. Après ça finit les Jeux, et cet état de choses va continuer, je pense. Qu'est-ce
aussi.
Que vous pensez
oui. Moi je pense que c'est une source d'espoir que... Il faut y croire.
Pensez que ça puisse faire quelque chose pour... Oui.
C'est déjà un premier pas.
Souhaitons-les, parce que moi, je ne pense pas. Ce sont les gens qui s'est « et » depuis longtemps.
Ah ouais.
Bah oui, excusez-moi, parce que moi, je parle comme une pie.
Alors, comme
je profite.
Ah, comme une pie.
Je profite pour parler des derniers Jeux Olympiques à eu lieu, je pense, si je ne me trompe pas, au Brésil.
Allez-y.
N'est-ce pas?
Allez-y.
Voilà. Non, au Brésil, les Jeux Olympiques.
Oui.
Voilà. Alors, donc, j'ai très vite. Mon rêve, c'était toujours d'y voir flotter les drapeaux israéliens avec les autres. J'étais à Munich pour ça. J'ai toujours prié pour ça. C'est la première fois qu'il a flotté les Juifs, c'était au Brésil. Et là, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Mais cela ne veut pas dire qu'ils vont être, après, par la suite de tout ça, amis de tout le monde. On attend toujours. C'est ça que je voulais dire. Excusez-moi d'avoir pris votre attention.
Vous êtes là pour ça. Vous avez un micro. Si vous avez le micro, c'est que vous pouvez vous exprimer. Après, moi aussi, je pense que c'est un message qui est envoyé comme ça à la face du monde, mais que c'est un message plein d'espoir. Et de, voilà, mais je pense que malheureusement, ça n'ira pas beaucoup plus, plus loin que ça. Mais c'est déjà positif que... à travers le sport, on oublie...
Oui, mais c'est pénible, ça.
Ne serait-ce que pendant quelques heures.
Munich, c'était épouvantable. 72, j'étais là. C'était épouvantable. Je pleurais. C'était en pensée, hein. On pense toujours là. Maintenant, c'est pareil avec la Corée. Au moins, on interdit avant déjà ce qui pourrait se passer. Chère madame, c'est votre tour.
Personne?
Non.
Allez, on enchaîne. Alors, je passe à la chronique suivante, qui va parler de la journée mondiale sans téléphone portable.
Oh là là.
Alors, là, ça, je vais tout de suite vous rétablir la vérité. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette chronique. C'est parce que je voulais écrire une chronique sur ce sujet, mais je n'avais pas mon téléphone portable, parce que c'était la journée sans téléphone portable. Non, c'est pas vrai. Non, en fait, j'ai lu un article sur le sujet, un article écrit par une journaliste qui s'appelle Emma Ferrand, qui travaille pour un journal dont je ne citerai pas le nom. En tout cas, ça m'a pris 20 minutes à le lire. C'est le journal qui s'appelait 20 minutes, ok, c'est pas grave. Voilà, donc je vous la lis rapidement, d'accord. Alors, en ce mardi 6 février, donc c'était hier, le monde entier célèbre la journée sans téléphone portable. Alors, voyons le bon côté des choses. Fini les problèmes de batterie et la peur de l'absence de réseau. Pour célébrer la journée mondiale sans téléphone portable, le 6 février, la journaliste, donc Emma Ferrand, j'ai décidé de me séparer de mon smartphone, l'outil chéri qui m'accompagne partout pendant 24 heures, de ce lundi 10h à mardi matin. Jeune journaliste de la fin de la génération Y, je suis scotché depuis désormais une paire d'années à mon cellulaire. Comme la plupart des gens, mon appareil ne me sert pas seulement à appeler la terre entière ou à textoter à longueur de journée. C'est un outil, un couteau suisse. Presse-papier, minuteur, réveil, chaîne-fi, mini-ordinateur, planisphère, calculette, lampe-torche. Pour tenir le coup pour de bon, je décide de laisser de côté tout ce qui me pousse à vouloir le déverrouiller des dizaines de fois par jour, les réseaux sociaux. Il est 10h du matin. Le moment est venu de lui dire adieu. D'abord, un dernier post sur Facebook pour que mes amis et ma famille ne s'inquiètent pas s'ils n'arrivent pas à me joindre. J'appuie, je fais glisser mon doigt sur l'écran. Ça y est, il est éteint. À cet instant, une petite voix dans ma tête fredonne. « Goodbye my lover, goodbye my friend » de James Blunt. Pour me préparer au mieux à cette lutte contre la nomophobie, c'est-à-dire la peur d'être éloigné de son téléphone, je décide de contacter un spécialiste de l'addictologie, par téléphone fixe évidemment. Il me dit « Si vous êtes dépendante au portable, vous allez très vite ressentir une sensation de malaise et un sentiment de vide », explique le docteur Xavier Lacaille. Dans ces cas-là, il faudrait entamer un sevrage comme pour n'importe quelle drogue. Mais alors, moi qui appuie régulièrement sur mon téléphone portable pour vérifier que je n'ai loupé aucun SMS, qui check parfois l'heure alors que je porte une montre à mon poignet, qui déverrouille mon portable et surfe sur les réseaux sociaux lorsque je suis dans une salle d'attente, suis-je dépendante ? Je cite de nouveau le docteur. L'objectif, ce n'est pas de s'arrêter. Il faut apprendre à gérer la consommation, qu'il n'y ait pas d'abus. Se couper de tout, ça fait bizarre. Alors il faut apprendre à se relaxer, à se changer les idées. Il est maintenant 11h30, je suis au travail et tout va bien. Je n'ai pas besoin des fonctions de mon portable et il ne me manque pas. Je l'ai rangé dans mon sac pour ne pas l'avoir sous le nez. C'est parti, il neige à Paris et les squares sont blancs. C'est trop beau, c'est trop rare. Mais seuls mes yeux captureront cet instant puisque je suis puni de portable qui me sert aussi d'appareil photo. À l'heure du déjeuner, je n'ai que mon plat et mon verre d'eau devant moi. Rien d'autre. Comme c'est bizarre de voir les autres canoter sur leur écran pendant ce temps. La journée défile et l'heure de rentrer arrive. Dans le métro, je me surprends à glisser ma main dans la poche de mon sac pour tenter d'en sortir le précieux. Dans mon wagon, je fais rapidement quelques statistiques sur les personnes les plus collées à moi. 5 personnes sur 8 ont un portable dans la main. Ils jouent, textotent, lisent la presse ou écoutent de la musique. Donc là, la personne est rentrée chez elle. Grâce à ma bonne vieille télé, j'ai pu passer la soirée sans me préoccuper de mon smartphone. Pour cuire les pâtes, j'ai ressorti mon sublime minuteur en forme de citron. Et avant de dormir, j'ai branché mon fidèle radio-réveil. En retrouvant mon téléphone portable dès mon arrivée au bureau, les 24 heures ont été respectées à la minute près. Je n'ai éprouvé aucune satisfaction, aucun enthousiasme. Comme si la journée que j'avais passée hier était la même que tous les autres jours de l'année. D'ailleurs, la science l'a prouvé, se couper des ondes fait un bien fou. Si vous avez lu cet article sur mobile, merci d'être allé au bout, malgré tout.
Bien.
Qu'est-ce que vous pensez de cet article ? Moi, en fait, je voulais écrire une chronique là-dessus.
Très bien.
Et j'ai lu ça et j'ai trouvé que c'était vraiment parfait, que je ne pouvais pas faire mieux.
Chronique.
Donc, je me suis dit, je vais juste le lire. Donc, je répète son nom. C'est Emma Ferrand qui a écrit ça. Mm-hmm. Est-ce que vous saviez déjà que hier, c'était la journée sans téléphone portable ?
Non.
Peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas trop connecté à votre téléphone portable.
Ah oui, c'est ce que j'allais dire, finalement.
Moi, ce n'est pas une addiction pour moi, le téléphone.
Oh, moi, c'est pareil, ça peut m'arriver aussi.
Je l'utilise depuis que Radio Z me charge de chronique.
Oui, parce qu'en fait, ça nous sert à beaucoup de choses, photos, musique.
Bah ouais.
C'est un ordinateur portable maintenant.
Oui, voilà, c'est ça, hein. C'est ça, surtout.
moi, j'ai pas Internet sur mon téléphone et j'arrive à m'en passer. Et puis, comment dire, je trouve qu'on... Par exemple, quand on est autour d'une table et qu'il y en a un qui sort son téléphone portable, moi, je me sens seule quand c'est comme ça. Oui. Parce que la discussion s'arrête alors que on était en train de discuter. Il y a tout qui est coupé, quoi.
C'est vrai.
C'est vrai aussi.
Ça coupe la relation entre les personnes, hein.
Ouais. Bah, pourtant, avant le téléphone,
l'objectif premier du téléphone, c'est de communiquer avec les autres. Et là, ça coupe la communication.
Ouais. Ouais. Avant le téléphone, dès qu'on s'évadait un peu, c'était dans le rêve. Maintenant, c'est dans le portable.
Dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous coupent de la communication avec les gens autour de nous.
Ah ouais, c'est vrai.
C'est quand même assez incroyable. Et alors toi, Zoubida, toi qui as ton téléphone... agrafé à ta main. Est-ce que tu aurais pu faire une journée entière sans ton téléphone ?
Non, je pense pas.
Tu crois que tu aurais pas pu survivre ?
Non, vraiment.
Et pourtant, que j'aurais fait ? C'est prouvé, la science l'a prouvé.
Je ne serais déjà jamais réveillée.
Mais tu n'as pas un réveil autre que ton téléphone ?
Si, mais mon téléphone, il est réglé sur une chanson que j'aime bien. Et du coup, le matin, et pour me réveiller, il me faut cette chanson.
Ah bon,
qui ne passe pas à la radio.
Ah bon,
c'est déjà compliqué.
Mmh. Bon. Bon, et mettons, tu t'étais réveillé avec ton téléphone. Mais une fois que tu t'es réveillé, tu posais le téléphone. Est-ce que tu aurais pu survivre à la journée ?
J'aurais eu beaucoup de moments de vide, je pense. À midi, après le café.
Bon, d'accord. Donc, est-ce que vous pensez que le téléphone, déjà, c'est une histoire de génération ? La relation avec le téléphone portable ?
Alors,
c'est possible aussi, hein. Oui, comme a dit la journaliste, elle est issue de la génération Y.
Génération Y.
C'est notre génération à nous.
Entre
15
et
30.
Les trentenaires d'aujourd'hui.
Entre 15 et 25.
les trentenaires d'aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi peut-être une question de génération, peut-être ?
Oui, aussi. Mm. Moi, je sais que c'est mes enfants qui m'ont un petit peu poussé vers ça, parce que rien que pour... Comme ils avaient des téléphones, donc pour que je reste...
Connectée à eux.
Et puis, c'est-à-dire que j'ai pris goût au jeu. Après, j'ai voulu en avoir un plus...
Et bien sûr, c'est toujours
plus
ça.
Plus de choses. Oui. Voilà. C'est vrai.
C'est important, le portable. Vous en parlez beaucoup.
C'est vous qui nous en parlez beaucoup.
Ah non, le portable, je peux dire la vérité, ça m'a sauvé. Parce que je pouvais téléphoner à l'étranger. C'était très bien. Mais de l'autre côté, je suis malade depuis que j'ai le portable. Je n'aime pas, personnellement.
Mais vous êtes malade depuis que vous avez... Bah, vous êtes malade depuis que vous avez le téléphone portable.
J'étais l'une des pires. J'étais la première à Angers à prendre un portable. Ah. Je les ai téléphonés pour dire. Et après, c'était la première à avoir un petit bout dans un journal que j'en avais marre. C'était l'Ouest de France. Ah non, moi, j'en ai assez, vous savez.
C'est très pratique. C'est
non, mais
pour vous
ne souffrez
c'est très
pas.
Pratique.
Là, je suis 5 jours sans portable.
Ah.
Je ne peux pas parler à personne. Ça me tue petit à petit.
Ah, ben voyez.
C'est
partie des addicts au téléphone portable. Alors.
Non, ben je suis obligée. Ben, j'aimais beaucoup parce qu'on peut regarder l'histoire de. Comment s'appelait Facebook ? C'était Sugar.
Facebook, juste Facebook.
Non, le type qui a découvert.
Zuckerberg, Mark Zuckerberg ?
Non, c'est pas Zuckerberg. Ça. C'est possible. Oui, oui.
Bon, allez-y.
C'était un Américain, l'Américain. Pour le Facebook, c'était génial. Vous ne trouvez pas ?
Ben oui, bien sûr.
Chez Facebook, oui.
L'idée originale était
Zuckerberg.
Géniale. Maintenant, ça a
dérapé. Zuckerberg, la montagne du sucre. Mais c'était génial. Un jeune, tout
mais
seul.
Mais vous êtes sur les réseaux sociaux, alors, vous ? Vous avez Facebook ?
Bah, Facebook, c'est pour moi, c'est génial.
Donc, vous avez Facebook.
Bah, j'ai Facebook, j'ai tout. J'ai Internet, Facebook, j'ai comment s'appelle l'autre, Google, tout.
Oui.
Mais je suis sans parler au téléphone, ça fait 5 ou 6 jours aujourd'hui. Ils sont dans, j'ai même laissé dans mon lit. C'est triste. Et on ne trouve pas la solution pour ça. Je suis furieuse.
Il faut le faire réparer.
Et si vous parlez toute la journée de Facebook...
Et est-ce que vous pensez que le téléphone portable, moi je pense que le téléphone portable bientôt on s'en passera.
Bientôt quoi ?
Je pense que le téléphone portable bientôt on s'en passera.
Pourquoi ?
J'ai pas d'argument pour
on pourrait
pour
mettre à la
ça.
Comment on fera ?
Je sais pas.
Comment on discutera avec le
comment
monde
vous
entier ?
Voyez ça ?
Je sais pas.
comment
sera remplacé oui, mais par autre chose.
Je pense que ce sera remplacé par autre chose et que bientôt le téléphone sera
plus
dépassé.
Facile, vous croyez?
Je ne sais pas.
C'est avec un téléphone lunettes, créé pour des personnes.
Oui,
c'est vrai que j'ai déjà
vu ça. Je souhaite que vous disiez la vérité.
Il existe
là,
des lunettes avec infrarouge. Et quand tu fais un petit tic de la joue, ça clique sur l'ordinateur.
Moi, je pense que ça va être ça l'avenir. Mm-hmm. C'est que maintenant, ils ont commencé à inventer les lunettes intelligentes, là, comme tu dis. Et en fait, maintenant, il y a même la reconnaissance faciale sur la personne, avec ouais. Donc la lunette qui s'affiche le nom, voilà, avec l'œil, etc. Je pense que la technologie va nous surprendre. Je propose qu'on passe à la suite.
C'est possible, oui. Alors, cette technologie.
Attends, voilà. On va faire une petite pause avant.
Oui. Mais ça, on fait tout ça pour les gens jeunes. Si vous avez plus de 60 ans, ça ne marchera pas.
Ça marchera. Avant l'industrie.
Attends. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale. On s'écoute une petite chanson, on revient tout de suite.
Vous allez chanter?
Somewhere, little melody and heart.
De retour sur Radio Z, on retrouve tout de suite la chronique, comment tu as dit, la chronique surprise de Ness.
Alors, avant l'industrie du téléphone, avant l'industrie de la télévision, il y a une industrie qui a été l'un des secteurs les plus importants et les plus influents depuis le début du XXe siècle et dans son essor mondial qui a été spectaculaire, l'automobile. L'automobile, qui a considérablement modifié les sociétés de nombreux pays, prend naissance au XIXe siècle, durant la révolution industrielle. D'abord machine à vapeur comme énergie, puis le pétrole et le moteur à explosion. Elle a développé les échanges économiques et culturels et conduit au développement massif de nouvelles infrastructures. Comme un objet de consommation grand public, elle est présente aujourd'hui d'un équipement largement considéré comme indispensable dans le foyer des pays développés. Attention, l'automobile se confronte alors à des chocs pétroliers, doit faire face désormais à la raréfaction inéluctable du pétrole, au réchauffement climatique et aux restrictions d'émissions polluantes composées dans l'industrie dans son ensemble. La voiture électrique. La voiture électrique est une automobile mue par la force électromotrice d'un ou plusieurs moteurs. Agrémentée par une batterie d'accumulateur, une pile à combustible ou un moteur thermique coupé avec des générateurs électriques. Maintenant, on arrive à la voiture autonome. Un véhicule autonome est apte à rouler sur route ouverte sans intervention du conducteur. Le but à terme est de développer un véhicule en ville ou sur une autoroute ou encore dans un système de stationnement automatisé. La voiture autonome commence en 1977. Le laboratoire de Robocop de Tsukuba, au Japon, fit fonctionner une auto-automatique sur un circuit dévié. Le suivi du trajectoire était réalisé par reconnaissance du marquage au sol et la vitesse était de 30 km/h. Les voitures autonomes, si l'objet a une âme, seront-elles les chauffards de l'avenir ?
Bravo.
Merci. Merci,
Ness. Merci. Ça, c'est la voiture.
Ah, oui,
l'automobile. Cette automobile-là, elle parle de cette automobile. C'était quand qu'on a commencé ?
L'automobile ?
Oui, parce que je pense à la Volkswagen.
Les premières. C'était la machine à vapeur de Denis Papin.
J'ai oublié une page.
C'était avant.
Ouais. On peut reprendre ?
Non, c'était avant.
C'est quoi, c'est la fin qui manque ?
C'est pas grave.
Allez, vas-y, reprends.
Non, c'est pas grave.
Non, tu es sûr ?
Oui, sûr.
Tu peux relire ta dernière phrase, s'il te plaît ?
Oui.
Ma dernière phrase. Les voitures autonomes seront-elles dans l'avenir des chauffeurs ?
Est-ce que vous pensez qu'un jour on arrivera aux voitures autonomes ?
Ça reste
toutes seules.
Pas tout en même temps, s'il vous plaît.
Il y en aura. Ça, ce n'est pas mon monde, ce n'est le monde des enfants.
Elle est en train de parler.
Ah oui, pardon, il y en a, parce que je...
Ça existe déjà, les voitures autonomes, mais sur des circuits fermés, c'est encore à l'étude et tout. Mais après, ça reste une machine.
Alors,
faire fonctionner les machines.
Moi, on me disait que dans 4 ans, ça sera en place.
Dans 4 ans, ça sera en place. Ce sera en place.
Ouais.
Je pense que oui.
Moi, je pense que
malheureusement, pour
ça...
l'humanité, oui. Vous avez posé une question.
Malheureusement, pourquoi malheureusement ?
Non, c'est malheureusement parce que les gens, depuis déjà qu'on a les portables, il y en a beaucoup de gens s'en approchent. C'est mon cas, de mon pays. Mais la majorité s'éloigne.
On parle des voitures, plus du téléphone.
Parce que les jeunes, les ados, passe le temps avec ça, ne sont plus avec les parents, avec la petite sœur.
De quoi vous parlez?
Je parle du portable, avec l'automatique.
On n'est plus sur les téléphones portables, on est sur les voitures, là.
Non, je sais, mais je parlais du portable avant, qui s'est éloigné. Il est téléphoné, la voiture aussi. Maintenant, il n'y aura personne dans la voiture. On attend là-bas où elle doit arriver. Je ne suis pas d'accord. Vous partez chez votre mère à pied, vous marchez une heure, vous courez,
et dites à votre voiture, encore le faire. Maman. Ça, je peux encore le faire. Si je n'ai pas envie de prendre la voiture autonome, je marche à pied
et je vais chez ma mère. Vous préférez prendre la voiture et ne rien faire.
Je ne vais pas une heure à aller
chez ma mère. J'en ai vu. Moi, j'ai dit que je ne suis pas d'accord de la voiture sans chauffeur.
C'est votre
Sauf
avis.
Dans quelques cas, alors, peut-être il y aura des cas où il faut vraiment que la personne est malade, etc. Mais non. N'est-ce pas? Si la personne ne se sent pas bien.
Vous avez peur que la voiture devienne un chauffard?
Mais moi, je pense que ça, c'est peut-être la solution aussi, parce que ça peut éviter peut-être des accidents, ça peut éviter des excès de conducteurs qui conduisent n'importe comment.
C'est ça.
Ça peut éviter beaucoup de choses. Comme dans le cinquième élément, avec les voitures qui roulent au-dessus des unes des autres. Comme ça.
Il y aura moins de circulation, c'est pas d'empêcher les collisions quand même.
Ah, c'est horrible.
Oui, bah oui, dans le cinquième élément, il y a des collisions, mais il n'y aura pas Bruce Willis dans l'avenir, peut-être. Véronique, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution
Toujours
de la voiture
avec lui.
L'évolution de la voiture, moi je suis d'accord avec vous, pour les personnes qui sont handicapées ou qui prennent un traitement qui ne peuvent pas conduire. Elles seront bien contentes d'avoir la voiture qui fait leur boulot. Hein.
Et on pourra
Je pense que chacun peut avoir sa voiture
encore
autonome.
Encore faut-il savoir la faire marcher.
Sa voiture.
Pour aller à la faire samedi soir.
Dans l'avenir, on la fera marcher avec juste la voix, vous ne croyez pas?
Oui.
J'ai ma voiture autonome, je vais chez mon pote Michel. Je vais chez mon pote Michel. Hop, je reviens, je sors de la soirée, je suis un peu fatigué. J'arrive dans ma voiture, je dis allez, hop, je veux rentrer chez moi.
À la maison.
K2000.
Non,
ça existe presque déjà pour se garer, les voitures
qui se garent tout seules.
C'est ça, c'est
un début hein, quand même.
Moi, je pense qu'on va y arriver plus vite qu'on ne le pense. Il y a déjà des choses qui sont en test hein, dans certains
Et alors, ça marcherait grâce à ce qu'il y a au sol, c'est-à-dire des...
Oui, le marquage, oui.
Le marquage, oui, c'est ça.
Il y a des voitures qui sont équipées de reconnaissance piéton.
Oui, aussi.
Et même s'il y a des trucs derrière ou quoi, ça bip. La voiture, elle parle quand la ceinture n'est pas mise.
Oui,
des petits trucs qui font quand même que. Moi, je crois aussi qu'on arrivera un jour à
Est-ce
ça.
Est-ce que vous croyez que grâce à ça, on va éviter les bouchons?
Ouais.
Ce serait bien.
Après,
ça.
J'aimerais vous poser une question.
On n'aura plus d'excuses pour arriver en retard à un rendez-vous.
Après,
on ne pourra pas dire qu'il y avait de la circulation,
avec
désolé.
Avec la neige, 10 cm de neige.
Avec la neige. Mais si les voitures volent, la neige, ça compte pas. Hein.
Non.
Ah oui, c'est pas si carré aussi.
La neige,
ne compte pas. Non, mais j'aimerais que la prochaine fois, si possible, vous parliez, parce que ça m'inquiète beaucoup, des robots qui soignent.
On en parlera la prochaine fois, alors.
Les aides-soignantes, les infirmières, ils touchaient les gens.
D'accord.
J'ai pas aujourd'hui.
On a fait le tour des voitures ?
Oui.
Si je puis dire ?
Oui.
C'était intéressant.
Des voitures.
Allez, je vous invite à vous retrouver autour de la chronique. Après la chronique surprise, de Ness, maintenant la chronique mystère de Marie-Thérèse. On vous écoute.
Voilà, alors bonjour à tous sur Radio Zen. J'ai pas été très inspirée pour du mystère cette semaine, mais j'ai fait mon week-end avec deux petits bouquins, notamment un qui a été offert à ma petite fille pour Noël, et dont le titre est « La tortue qui respirait par les fesses ». Alors, c'est l'histoire, en fait, ce petit bouquin est écrit par un homme, un Américain, je crois, qui s'appelle Brooke Barker, et ce petit bouquin a été traduit. Donc, quand il était petit, sa grand-mère lui a donné un livre sur les bébés animaux, et elle lui a dit « Sois toujours l'ami des bêtes ». Et comme il ne demandait pas mieux, mais que ses parents ne voulaient pas d'animaux à la maison, et il était à cette époque-là au Canada, il n'y avait pas grand-chose de sauvage à moins de faire un bon petit bout de chemin. Il a donc passé son enfance à lire tout ce qui se trouvait sur les animaux. Ce n'était pas toujours beau à voir, bien sûr. Nos amis à quatre pattes sont tout doux, tout mignons et souvent capables de faire des trucs incroyables. Pour autant, leur vie n'est pas que rose. À propos de rose, prenez les cochons à la queue en tire-bouchon. Saviez-vous qu'ils ne peuvent pas voir le ciel? On ne le dit pas non plus, mais les tortues marines, ces majestueuses créatures, ne rencontrent jamais leurs parents. Je ne sais pas si vous vous rappelez les fameuses tortues qui vont dans le sable, qui creusent un petit trou, qui déposent leurs œufs, et après elles s'en vont. Et les tout petits bébés tortues doivent casser leurs coquilles, puis s'en vont difficilement dans la mer. Et entre-temps, elles sont quand même mangées par les oiseaux. Voilà. Et donc après, ils grandissent et ils ne voient plus jamais leurs parents. Alors, on ignore aussi que les pieuvres n'ont pas d'amis, les méduses pas de cœur, ou encore que les zèbres ne peuvent pas s'endormir quand ils sont seuls. À y regarder de plus près, la vie des animaux est largement aussi complexe et tourmentée que la nôtre. Lors d'une morne croisière d'observation de baleines il y a quelques années, alors que nous avions attendu 7 heures des baleines qui ne se sont jamais pointées et que le capitaine s'excusait pour la 100e fois, je me suis prise à penser à ces baleines qui, quand elles chantent faux, ne peuvent plus retrouver les leurs. C'était comme notre rendez-vous manqué avec les baleines, sauf qu'il durait toute la vie. C'est vrai, vous savez que les baleines chantent, ça permet de communiquer, ça fait comme des sonars. Et si malheureusement il y en a une qui chante faux, les autres ne la reconnaissent pas, elles se retrouvent toutes seules.
Alors, une baleine peut chanter faux, vous pensez?
Ah ouais.
Bah, ça peut être compromis par différents trucs. Hein. Voilà, soit elle est malade, ou elle souffre. Et puis,
elle est grippée. Et puis...
Voilà, on peut imaginer ce qu'on veut. Alors, comme il a réussi, en grandissant, il a travaillé dans une bibliothèque. Et à chaque fois qu'il avait des... Vous savez, les petits cartons qu'on met dans les livres pour marquer le nom, la date, et puis voilà. Donc derrière ces petits cartons, il dessinait des petits animaux avec des petites anecdotes. Et ses amis avaient pris l'habitude de lui rapporter les petits cartons pour qu'il les illustre. Alors, ça a donné naissance à ce petit bouquin. Alors, plus je lisais, plus je les imaginais discutant et se plaignant de leur vie, exactement comme nous. C'était comme si je les voyais. Un bébé girafe qui tombe de 2 mètres à la naissance et qui s'écrie, ça commence bien. C'est vrai, parce que la girafe, elle est debout, et le bébé, il tombe, et la hauteur des pattes de la girafe. Alors, un ver de terre avec ses 9 cœurs qui cherchent en vain l'âme sœur, il a du mal à trouver. Chaque animal sur cette terre a son point faible, ce petit détail qui rend sa vie triste. Poissons, reptiles, cétacés, pinnipèdes, c'est comme ça qu'on appelle les phoques et compagnie, les otaries, tout ça. Il y en a qui mangent leur queue, d'autres qui ne se reconnaissent pas dans un miroir et d'autres qui se font pleurer tout seuls. Ça, en fait, c'est un poisson qui mange beaucoup de non, c'est pas un poisson, un oiseau qui mange beaucoup de petits poissons dans la mer et qui, pour pas être submergé par le sel dans son organisme, pleure. Donc, comme nous, quoi, nos larmes sont salées et pour enlever l'excédent de sel, il se met à pleurer.
C'est dingue, hein, c'est dingue la nature. Voilà.
Alors, ce livre n'a pas pour ambition de vous faire pleurer, bien au contraire, mais j'espère qu'il vous aidera à vous sentir plus proche des animaux qui nous entourent. Les animaux ont toujours besoin d'amis, même si parfois, c'est pour leur servir de casse-croûte. Alors, là, je vais revenir à la tortue, pardon, qui respire par les fesses. Elle peut aussi respirer par le nez, mais c'est plus pratique pour elle de respirer par les fesses. Par contre, elle ne s'assied pas souvent. Non, parce que sinon elle s'étouffe. Voilà.
Alors,
ça, c'est le premier petit livre. Donc, je pense que vous pouvez le trouver à la Fnac. Hein. C'est Brooke Barker chez Flammarion. Et je veux dire aussi avec d'autres anecdotes, parce que comme c'était ma petite fille, je me suis vue obligée, parce qu'elle lisait, d'expliquer des mots comme excrément, s'accoupler, rut. Alors, mon week-end a été bien chargé en explications et on a bien ri quand même.
Alors, moi, j'ai une anecdote à donner. C'est en Inde. Leur façon de voir le Big Bang, ce serait 4 éléphants qui porteraient une carapace de tortue autour d'eux, il y aurait les serpents. Ouais, c'est comme ça qu'ils imaginaient l'univers.
Oui, après, suivant les cultures, comme les Mayas et tout ça, le Big Bang, voilà. Alors après, j'ai un autre petit bouquin, celui-là, c'était le mien. « Faut pas pousser mémé dans les orties » et autres expressions botaniques. Alors, dans « Faut pas pousser mémé dans les orties », il y a la première expression quand on dit qu'on jette quelque chose aux orties. Alors, l'ortie, herbe folle cantonnée à l'origine au bord des rivières riches en alluvions, l'ortie profite des activités humaines, culture ou élevage, qui enrichissent artificiellement les sols. Elle prolifère souvent autour des bâtiments ou d'éjections des animaux domestiques comme déchets végétaux s'accumulent. Alors, d'éjections aussi, j'ai dû expliquer, c'était le caca. Voilà. Ça, elle avait compris.
Ça, c'était facile.
Voilà. Avide de fer, elle pousse plus vigoureusement encore dans les zones de dépotoirs ou boîtes de conserve, vieux outils agricoles ou épaves de voitures non sont abandonnées. Alors, vous savez aussi que les orties, vu qu'elles sont pleines de fer, sont très bonnes pour la santé. En soupe, en salade.
Ah, la soupe d'ortie, j'aime ça.
Beaucoup. Alors, jeter quelque chose aux orties, c'est s'en séparer, la mettre au rebut. À l'origine, l'expression ne concernait que l'abandon de l'état religieux par un moine. Jeter son froc aux orties, le froc étant la robe monastique, donc défroquer, etc. Maintenant, froc, c'est le pantalon, mais c'est un petit peu pareil. Dire il a jeté son froc aux orties n'aurait pu signifier qu'une chose, que cette personne est adepte du naturisme sur les plages. Alors, pour en revenir à la pauvre mémé, alors, quelle est cette mystérieuse mémé qu'il ne faut pas pousser dans les orties quand on veut signifier qu'il ne faudrait peut-être pas exagérer ? La personnification sympathique d'une personne âgée. Sous l'influence de l'expression « jeter quelque chose aux orties », il faut comprendre qu'on jette mémé aux orties pour s'en débarrasser. Traiter une personne comme un vulgaire objet, c'est en effet très exagéré. D'autant plus que les orties provoquent des brûlures très désagréables sur leur peau avec laquelle elles entrent en contact. À ce sujet, j'ai une anecdote personnelle. Je faisais une balade avec la famille en pleine forêt. Et puis souvent, comme nous les dames, on a toujours envie de faire un petit pipi. Alors je m'enfonce bien dans la forêt, puis je fais mon petit pipi. Malheureusement, sous moi, il y avait des orties toutes fraîches. Alors autant vous dire que ça m'a bien piqué, bien gratté. Et en même temps, ça a fait la circulation du sang. C'est bon
sur les
gelé avec des branches d'ortie. Voilà pour les petites recettes médicales personnelles.
Merci
voilà.
beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup.
Eh bien, merci à vous de m'avoir écouté.
Voilà, je dis bis, quem tem cara tem nariz. À nouveau, c'est en portugais. Qui a le visage, a aussi un nez. Nariz, on dit ça quand c'est peut-être bon.
Mm-hmm. Ah, d'accord.
Mm-hmm. Ah oui. Hein? Mm-hmm. Donc, c'était très bon.
Merci.
Ouais. Encore.
On en reste là pour aujourd'hui ?
Ouais.
Bon, et bien, donc il est temps de se dire au revoir. Merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, autour de la table, donc, il y avait Ness, Véronique, Marie-Thérèse, Neide, Zoubida et
parce qu'on apprend des choses,
Christophe et Mathieu, donc, pour vous servir. Merci beaucoup et à la semaine prochaine sur Radio Z.
À la semaine prochaine sur
Radio Z. Au revoir. Salut.
Au revoir. C'était très bien.
C'était
ce que vous avez dit.